savent pas où se trouve Foix, c'est sur la route qui mène à Andorre. En principe, pour être Andorre, en général, c'est connu. Et je suis juste à mi-chemin entre Toulouse et la principauté d'Andorre, juste au milieu. Mais je ne suis pas venu vous parler de géographie. J'aimerais partager quelque chose de très simple avec vous ce soir. C'est sur le thème de la foi, donc ce n'est pas un thème nouveau pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais aborder ce thème d'une certaine manière et essayer de voir avec vous tout la foi et toutes ses caractéristiques lorsqu'on l'exerce. Alors on va lire bien sûr la définition bien connue, vous devez la savoir par cœur, dans Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi, oui c'est, oui je sais, on lit ça ensemble, on lit ce verset ensemble dans Hébreux 11 verset 1, 1 et 2 d'ailleurs. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà, je lis les mêmes versets dans une autre version, même si c'est sur mon téléphone. J'ai 11 versions dans le téléphone, donc voilà, j'ai le choix. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Le principe de la foi est un principe qui a été arrêté par Dieu. Nous ne sommes pas sauvés sur la base des mérites. Nous n'obtenons rien de la part de Dieu sur la base de notre généalogie, parce que nous avons dans les ascendants des gens remarquables au niveau de la piété. Non, non. Nous n'obtenons rien de Dieu sur la base du carnet de chèques, des dons généreux que nous faisons à l'église locale. Tout ce que Dieu nous offre, tout ce que Dieu nous accorde, n'est que grâce. Et c'est par la foi que nous prenons possession de cette grâce et des ressources de cette grâce. On pourrait être conseillé auprès du Seigneur, lui dire que ce n'est peut-être pas la bonne manière de faire. Il aurait fallu s'y prendre autrement. Mais Dieu a arrêté ce principe. Tout passe par la foi en Dieu, la foi dans sa personne, la foi dans ses paroles, la foi dans ses promesses, la foi dans ce qu'il est et ce qu'il dit. Dans ce chapitre 11, après avoir donné la définition, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite un grand nombre de témoins que vous connaissez, donc les patriarches, mais il y a aussi Moïse qui est cité, les parents de Moïse, Josué, etc., etc., Noé aussi. Et on s'aperçoit que tous ces gens qui sont nommés comme témoins de la foi n'ont pas toujours été amenés à vivre la foi de la même manière. Les uns ont dû partir à la conquête, dirais-je, d'une promesse de Dieu. D'autres ont dû simplement rester persévérants dans des situations difficiles. D'autres ont salué de loin ce qui leur a été promis et ne l'ont pas vu de leurs yeux humains, ne l'ont pas touché de leurs doigts. Et on s'aperçoit que la foi donc peut s'exercer de manière très très différente. Et ce soir, j'aimerais m'attarder sur quatre caractéristiques de la foi que nous allons essayer de décrire à la lumière de quelques exemples bibliques. Et peut-être qu'en réfléchissant à cela, cela pourra vous renvoyer vers certaines étapes de votre vie, ou peut-être même ce soir dans une étape de votre vie, et vous dire, eh bien oui, c'est exactement là où je suis, je comprends ce que Dieu attend de moi. La première caractéristique de la foi, je l'appelle la foi confiante, la confiance. C'est cette foi qui s'appuie tout simplement sur ce que Dieu dit. Voilà. C'est simple à dire, c'est moins simple à faire. Intellectuellement, c'est assez simple encore à concevoir, mais quand on traverse les tempêtes de la vie, c'est moins simple à vivre cette foi sereine et tranquille. Cette foi qui fait confiance à Dieu. Vous avez le cas du prophète Élisée dans l'Ancien Testament, qui un jour a vu sa vie menacée, pour la simple et bonne raison, c'est que Dieu lui révélait les plans de campagne du roi syrien à côté. Et donc les services de renseignement ont dit tout simplement, ben voilà, c'est la faute du prophète, Dieu lui parle et il lui dit dans sa chambre tous les plans secrets de notre état-major. Le roi donc réagit très vite, allez me chercher cet homme, trouvez-le et amenez-le ici. Et voici qu'un matin, dans la ville de Dothan, le serviteur du prophète Élisée fait un petit tour dans la ville. Je ne sais pas quel était le but, un footing matinal ou autre chose, peu importe. Et tout à coup, ses yeux se portent au-delà des maisons et des murailles et il voit l'armée syrienne, en tout cas un régiment de l'armée syrienne qui entoure la ville. Et ça n'augure pas de bonnes choses, ça n'annonce pas de bonnes choses. Il rentre très vite à la maison, chez le prophète, et il lui dit pas « nous sommes perdus », mais c'est presque ça. « C'est pas bon pour nous, les Syriens entourent la ville, et ils ne sont pas là pour faire du tourisme, ils ne sont pas là pour faire du commerce, ils sont là pour d'autres raisons. » Et on a le sentiment, enfin, on ressent ça un peu dans le texte, que cet homme est un petit peu affolé, inquiet pour sa vie, pour son sort et pour son avenir. Et il se dit certainement que ça va mal se terminer. Et je pense qu'il avait de bonnes raisons d'être inquiet. En face de lui, il y a le prophète Élisée. Et le prophète Élisée semble, lui, calme, tranquille et serein. Et il lui dit, de toute façon, ceux qui sont de notre côté, ceux qui sont avec nous, sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts que ceux qui sont contre nous. Vous connaissez cette phrase de l'Ancien Testament. Ça aussi, c'est très facile à citer, hein, dans la conversation ou dans la prière. C'est une autre chose que de le vivre, de s'y cramponner quand la terre est en train de trembler sous nos pas. Et le prophète fait une prière à la suite de cette parole. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et voilà que tout à coup, cet homme qui était inquiet, agité, qui ne savait pas trop quel allait être l'avenir de la ville et son propre avenir, voit là, comme dans une vision, les armées de l'Éternel qui viennent au secours du prophète et de cet homme et son serviteur. Rien n'avait changé, les Syriens étaient toujours là. Peut-être que toutes les portes et les volets, s'il y en avait, des maisons étaient fermées, bouclées. Certainement que ça devait être le grand silence dans la ville. Rien n'avait changé. Mais pour lui, cette vision de la puissance de Dieu, cette vision des armées de l'Éternel, ont dû certainement changer son état intérieur et l'amener à se dire « Oui, faisons confiance au Seigneur. Notre Dieu est grand. Alléluia. Il est souverain, il est tout-puissant, il est éternel. C'est le maître de toutes choses, le maître de l'histoire, le maître des circonstances. Et il sait sur quel bout de ficelle il faut tirer pour dénouer la situation. Alors que nous, parfois, nous passons des heures et des heures à réfléchir, à nous poser 1000 questions. Lui, il sait juste ce qu'il faut faire ou sur quel bout de ficelle tirer pour que tout à coup, la situation s'apaise ou trouve une solution. Faire confiance à Dieu, s'appuyer sur ce qu'il dit, s'appuyer sur ce qu'il est et s'en remettre à lui. Le psaume 37 dit ceci, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il te laissera tomber. » Non, il agira. Il agira. Nous croyons à l'inspiration des Écritures. Nous croyons que ces mots sont comme une promesse de Dieu, qui n'était pas seulement pour le psalmiste, mais aussi pour nous. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il va trouver une solution. Même si les montagnes se dressent comme un vrai massif, Dieu est en mesure d'ouvrir une voie au milieu de ces montagnes. Il est en mesure d'accomplir toutes choses. La foi confiante. Abraham est appelé le père de la foi, le père des croyants, et il a eu cet aspect-là aussi de la foi, cette caractéristique-là de la foi, en tout cas il l'a mise en œuvre. Un jour, Dieu lui a parlé, il lui a dit « Regarde le ciel ». Ça devait être le soir, j'imagine. « Regarde et compte les étoiles si tu peux ». Je ne sais pas si vous avez essayé de les compter. Ça prend un peu de temps. Et d'un endroit, quel que soit l'endroit, on peut en compter environ 2000. Mais il faut faire une croix sur chaque pour ne pas recommencer le calcul. Et Abraham a dû compter donc peut-être quelques étoiles. Et Dieu lui a dit, tu vois toutes ces étoiles, telle sera ta postérité. Oui, mais il n'y a pas de fils à la maison. Il n'y a pas de fille, il n'y a personne. Je n'ai pas d'enfant. Abraham aurait pu entrer dans une grande négociation, une grande discussion avec Dieu. Tu me dis, mais je ne vois rien. Je ne vois pas comment les choses peuvent se produire. Et la Bible dit, et c'est Paul qui reprend ce texte dans l'Épître aux Romains et qui le commente, il dit que Abraham a fait confiance à Dieu. C'était impossible. On ne pouvait pas trouver une situation plus fermée, plus s'opposant davantage à celle que connaissaient Abraham et Sarah. Sarah n'était stérile et vu l'âge du couple, il ne fallait pas attendre grand-chose pour l'avenir. Et Dieu lui dit, regarde ces étoiles, compte-les si tu peux, elles sont aussi nombreuses que ta postérité. Abraham a fait confiance à Dieu. Oh, il a eu un moment où il s'est posé quand même des questions avec sa femme, et ils ont pensé qu'il fallait donner un coup de pouce aux promesses de Dieu. Ils ont pensé qu'il fallait aider un peu le Seigneur à réaliser ses promesses. Et c'est là qu'ils se sont tournés vers la servante Agar, qui a changé de statut d'esclave qu'elle était ou servante, est devenue une femme de deuxième rang, donc une concubine. Et ce n'était pas le dessein de Dieu, ce n'était pas le plan du Seigneur. Ces choses sont écrites pour nous encourager à lui faire confiance quand Dieu a dit qu'il est parfaitement en mesure d'accomplir et de réaliser ce qu'il a dit. Abraham, toutefois, quand même cru à ce que Dieu lui a promis. Imaginez, si on transposait ça aujourd'hui, qu'Abraham et Sarah soient là au milieu de nous et que tout à coup ils viennent dire, voilà, nous allons avoir une grande, grande postérité. Et imaginez qu'ils aillent voir le gynécologue pour dire, voilà, nous avons reçu une promesse et nous allons avoir des enfants en grand nombre. Je pense que le gynécologue aurait sorti un petit papier, une enveloppe, et il aurait dit, je vais vous donner l'adresse d'un confrère. Il n'est pas en gynécologie, mais il est en psychiatrie, et il saura certainement vous être d'un grand conseil. Ouais, c'est assez extraordinaire que Dieu ait choisi la difficulté comme celle-là, mais ça n'a pas été grande difficulté pour Dieu, parce qu'en effet, aujourd'hui, avec le recul des siècles, nous pouvons dire que Dieu a tenu parole. Et pourtant, qu'est-ce qu'Abraham a vu de cette promesse? Quand son fils est né, Isaac, il avait 100 ans et Sarah 90. Puis, Isaac s'est marié, il avait 40 ans, donc Abraham en avait 100 de plus, 140. Isaac se marie avec Rebecca, mais Rebecca est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Et on recommence. Et il prie. Et on apprend que deux enfants vont naître, Ésaü et Jacob, mais 20 ans plus tard. Donc Isaac a 60 ans, ce qui veut dire qu'Abraham a 160 ans. Et Abraham meurt à 175 ans. Donc il aura vu deux ados, Ésaü et Jacob, à 15 ans. Voilà, il a vu que ça de la promesse de Dieu. Sur toutes les étoiles que Dieu lui a promises, il en a vu trois. Son fils et deux petits-fils. Mais il a fait confiance à Dieu. Et aujourd'hui, si nous pouvions rencontrer Abraham, nous pourrions lui dire, oui, oui, Dieu a tenu parole et tu as bien fait de lui faire confiance. C'est un aspect de la foi. Et il y a des étapes de notre vie dans lesquelles Dieu nous appelle à lui faire confiance. Fais-moi confiance, je m'en occupe. Fais-moi confiance, je vais t'aider. Fais-moi confiance, je vais te secourir. L'autre aspect de la foi, c'est l'obéissance, la foi obéissante. C'est comme ça que je l'appelle. Quand on est pleinement convaincu de la parole de Dieu qui nous est adressée, cette parole ne peut que nous amener, par la foi bien sûr, nous amener à obéir. La foi obéissante, c'est cette qualité de foi qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu et qui ne s'engage pas donc dans une discussion et une contestation avec Dieu, mais qui dit « Seigneur, tu l'as dit, j'y vais. Voilà. Tu l'as dit, je le fais. Tu l'as dit, je m'engage. Tu l'as dit, alors j'observe. » La foi obéissante. Abraham est encore cité comme père des croyants et dans cette foi obéissante, il se trouvait à Ur en Chaldée. Il vivait au milieu d'une population très idolâtre, on adorait les astres, la lune, le soleil, les étoiles. Et tout à coup, on ne sait pas d'ailleurs comment ça s'est passé, on n'a pas les détails, Dieu s'est adressé à ce personnage, Abraham, et il lui a dit, quitte Ur, va-t'en de ce pays vers le pays que je te montrerai. Et là, Abraham a fait confiance à Dieu et en même temps il a obéi. Et il a certainement obéi parce qu'il a fait confiance à Dieu. Ça peut nous paraître très simple. En tout cas, dans la Bible, ça semble simple. Dieu lui parle, il plie les bagages et il s'en va. Enfin, quand vous regardez l'itinéraire, ça fait quand même quelques centaines de kilomètres. Il est remonté vers le nord, en direction de la frontière de la Turquie actuelle. Puis il est redescendu du côté de Jérusalem. Et si vous mesurez avec un double décimètre et vous calculez à l'échelle, vous apercevoir que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Il n'est pas parti avec une valise cabine comme ça pour faire des milliers de kilomètres. C'était un riche propriétaire, un riche éleveur, dirons-nous. Il avait certainement une domesticité importante. Il avait des membres de famille, il était installé à Ur, et je pense qu'il y avait toutes ses racines. On a l'impression, lisant le texte, que tout a été simple et facile. Je n'en suis pas sûr. En plus, Ur en Chaldée, à l'époque, était une région quand même intéressante. Les archéologues se sont penchés sur cette région et ont découvert que c'était une région riche, il était intéressant d'y vivre. C'était irrigué par des canaux, etc. Et la région pouvait nourrir 30 000 personnes. Et quand Dieu lui dit de quitter cet endroit pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas, il y avait quand même beaucoup de points d'interrogation, beaucoup d'inconnus. Et je ne sais pas si Abraham était comme nous, mais nous nous aimons bien quand même un peu contrôler les choses. C'est bien gentil de nous dire qu'on va aller dans un autre pays, mais on aimerait bien au moins avoir l'adresse, avoir quelques données, avoir quelques éléments qui nous permettent de faire confiance. Abraham, nous est-il dit, a entendu l'appel de Dieu, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et par la foi, il est parti et il a obéi. Il est parti et il a obéi. Et on a d'autres cas. Vous avez le cas de Noé. Noé qui, un jour, s'entend Dieu lui parlait, entend Dieu lui parler d'une manière précise, et cette parole fait autorité dans le cœur de Noé, au point qu'il est saisi d'une crainte respectueuse, nous est-il dit. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit ? Je vais détruire l'humanité, il va pleuvoir, 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 de l'eau va inonder la terre, et toi, pour échapper avec ta famille, tu vas construire un bateau. Et il lui donne les dimensions, d'ailleurs. je ne sais pas ce que ça a fait dans l'esprit et le cœur de Noé, parce que le chantier était quand même important. Ça a été le chantier de sa vie, dirais-je. Le chantier de sa vie, ça a pris énormément de temps, et puis c'était plein de points d'interrogation. Mais il est dit que la foi de Noé a reconnu l'autorité de la parole de Dieu, et Noé s'est soumis à cette autorité. Il a accepté d'y obéir, et ce fut pour son salut. Abraham est allé très loin dans la foi obéissante. Connaissons ce chapitre 20, 22, je crois, de la Genèse, quand Dieu lui dit « Abraham ». Il répond « C'est moi, me voici ». Il ne savait pas ce qui suivait. « Me voici ». Et il lui dit « Tu vas prendre ton fils, Isaac, comme pour insister un peu, celui que tu aimes, et tu vas aller l'offrir en sacrifice sur le mont que je te montrerai ». Je pense que les nuits qui ont suivi ont dû être difficiles. La Bible ne parle pas des émotions d'Abraham. En a-t-il parlé avec Sarah ? On ne sait pas. La Bible reste très sobre et très silencieuse. Ça pourrait presque nous laisser croire que ce fut facile pour Abraham. Mais si Abraham était un homme de la même nature que nous, je ne sais pas si il a discuté dans son cœur avec Dieu. Mais en tout cas, sa foi obéissante a surmonté toutes ses interrogations. Elle a surmonté tout son questionnement. Comment est-ce possible que Dieu me promette une postérité comme les étoiles du ciel, qu'il me donne un fils miraculeusement et que maintenant il me demande de le sacrifier ? Il y avait de quoi être totalement désappointé, à n'y comprendre plus rien en Dieu. Abraham n'avait pas la Bible comme nous. Abraham fonctionnait, marchait avec les quelques paroles de Dieu qu'il lui disait au fil du temps. Et Dieu ne lui parlait pas tous les quatre matins. Il lui a parlé de temps en temps. Il y a même une période, pendant 13 ans, Dieu est resté silencieux. 13 ans, c'est long. Et Abraham, pourtant, a fait confiance à Dieu et il a cru que s'il obéissait à Dieu, Dieu allait s'occuper du reste et qu'il pourrait même ressusciter son fils Isaac. Il était arrivé à un niveau de foi quand même important, extraordinaire. C'est une des caractéristiques de la foi, la foi authentique, la foi véritable dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, ne peut que nous conduire à l'obéissance à Dieu et à la soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Il y a un autre aspect encore à la foi, c'est la foi conquérante, c'est ainsi que je l'appelle. C'est cette foi qui s'approprie les promesses de Dieu et qui se dit « je les veux, moi aussi ». Ce n'est pas seulement des promesses universelles pour l'ensemble du peuple de Dieu. Ces promesses sont pour moi. Je me sens concerné par les promesses de Dieu et je cherche à les posséder. Cette foi qui s'approprie les promesses de Dieu, on la trouve chez un certain Caleb dans l'Ancien Testament, à la conquête du pays promis. Il a dû attendre un peu plus de 40 ans l'accomplissement, la réalisation de la promesse de Dieu. Mais Caleb était quelqu'un qui se cramponnait aux promesses que Dieu lui avait faites. Et il dit à Josué qu'il a autant de vigueur qu'à l'âge qu'à 40 ans, qu'il se souvient toujours de la promesse que Moïse lui a faite et qu'il a vu dans cette promesse plus qu'une parole de Moïse, une parole de Dieu qui lui était adressée. Et plus de 40 ans plus tard, il y croit encore. Il y est accroché et il veut voir cette promesse se réaliser. Et en s'appuyant sur cette promesse, il va vivre une grande et belle victoire. Il prendra possession de la ville de Hébron et ses environs. On retrouve souvent cette attente de Dieu dans sa parole. Une foi qui s'approprie les promesses qu'il nous a faites, une foi qui se sent concernée et qui se met à la recherche de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Connaissez cette parole appliquée à la vie de l'esprit, cette parole de Jésus. Dans l'évangile de Jean, un jour, il prend la parole lors d'une cérémonie particulière et il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. » Il y a quelque part une démarche active. Si quelqu'un a soif, la source est là, elle coule, elle est abondante, elle est à disposition. Mais pour que cette source devienne une source dans la personne même, il faut que cette personne fasse la démarche qu'il convient, qu'elle s'approprie cette promesse et qu'elle en cherche la réalisation dans sa propre vie. J'ai le souvenir d'un témoignage d'une jeune dame, c'était dans la ville d'Agen il y a très longtemps. Elle avait découvert Jésus-Christ depuis peu de temps, et le pasteur de l'époque avait organisé une réunion un peu spéciale de recherche, comme on dit dans notre jargon, du baptême de l'Esprit. Et on priait donc pour les frères, les sœurs qui voulaient être remplis du Saint-Esprit. Et puis la réunion s'est terminée, cette jeune femme n'avait toujours pas été baptisée du Saint-Esprit, et quelque part, ça l'a chagrinée. Alors elle raccompagnait avec elle, dans sa voiture, elle raccompagnait une sœur plus âgée, et pendant qu'elle la raccompagnait, elles discutaient toutes les deux, et comme toutes les deux n'avaient pas connu la bénédiction ce soir-là, elles étaient un petit peu chagrinées. Alors la plus jeune dit « Maman, c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça, il faut que ce soir le Seigneur me remplisse du Saint-Esprit. » Et l'autre, beaucoup plus âgée, lui dit « Attendez, ça fait 13 ans que j'attends, vous pouvez bien attendre vous aussi un petit peu. » Et elle lui a dit « Non, c'est ce soir ou jamais. » Alors elle a déposé la personne plus âgée chez elle, elle est rentrée à la maison, elle est allée droit dans sa chambre, elle a dit « Seigneur, c'est pas possible, c'est ce soir ou jamais, c'est ce soir ou jamais. » Et ce soir-là, le Seigneur l'a remplie du Saint-Esprit, là au pied de son lit, elle avait cru dans la promesse du Seigneur, elle s'y était cramponnée, attachée, et sa foi vivante l'a mené à rechercher l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. C'est un aspect de la foi. La foi a ses périodes de confiance, ses périodes d'obéissance, mais elle a aussi ses périodes de conquête. Elle doit faire preuve de dynamisme, de volonté, voire de détermination en certains cas. On a des exemples de personnes dans les évangiles qui ont une foi vivante et une foi déterminée. Ils ont même dépassé les obstacles qui se dressaient devant elles pour obtenir de la part de Jésus une véritable bénédiction. Vous connaissez le cas de cette dame qui est venue pour obtenir de la part de Jésus la délivrance de sa fillette. Et alors elle criait derrière le groupe des disciples. Et quelques-uns d'entre eux ont commencé à s'énerver. Ils ont dit à Jésus, allez, donne-lui ce qu'elle vient chercher et qu'on n'en parle plus, ça suffit maintenant. Et quand Jésus s'adresse à elle, il ne l'accueille pas avec des mots de bienvenue très très chaleureux. C'est pas bien de prendre le pain qui revient aux enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah ben si c'est comme ça qu'on m'accueille dans les assemblées de Dieu, vous ne m'y reverrez pas de sitôt. C'est comme ça qu'elle aurait pu réagir. Pour un prophète de Nazareth, il y a d'autres façons d'accueillir le public. Surtout quand on est en demande et en recherche. Mais cette femme ne s'est pas laissée démoraliser, démonter. Elle était déterminée dans sa foi. Elle dit « Oui, mais il y a certainement une miette pour moi, et cette miette sera suffisante pour le secours et la délivrance de ma fille. » Et Jésus de dire « Femme, ta foi est grande. » Cette foi déterminée, conquérante, l'a amenée à vivre une belle expérience. Et puis il y a la foi fidélité. Cette foi qui est linéaire, qui ne varie pas, quels que soient les événements. Ça, c'est pas simple. Je pense, si vous êtes la même argile que moi, que notre foi aurait tendance à faire un peu une sinusoïde, hein, en fonction des circonstances. Quand tout va bien, nous sommes capables des plus belles déclarations, et quand tout va mal, c'est un peu différent. Mais je crois que la volonté de Dieu, c'est de nous amener petit à petit à ce que l'amplitude de la sinusoïde se rétrécisse, pour que notre foi devienne comme quelque chose, un comportement linéaire, indépendant totalement des circonstances que l'on traverse. C'est tout un apprentissage, toute une éducation, et on n'apprend pas ça du jour au lendemain. Mais Dieu est un bon éducateur, un bon coach, Dieu est un bon pédagogue, et il sait forger notre foi et faire en sorte qu'elle devienne plus linéaire. Il y a quelques jours de cela, j'étais dans l'avion et j'allais atterrir, c'était à Lille, et comme j'étais près du hublot, bien sûr, comme beaucoup d'autres, je regardais par le hublot, on ne voyait pas le sol. Pourtant, on n'était pas si haut que ça, on allait atterrir, on ne voyait pas le sol. Des nuages, du brouillard, que du brouillard. Et là, il m'a fallu faire confiance quand même au pilote, à ses compétences, et faire confiance aux instruments de bord. Et en réfléchissant, je me suis dit, la foi confiante, mais aussi fidèle et linéaire, c'est cette foi qui se cale sur ce qu'elle sait de Dieu, ses paroles, sa nature, fidélité, compassion, amour, etc., vérité. Cette foi se cale sur ces choses, qu'il y ait des nuages ou que le temps soit beau, ça ne change rien. Je continue d'une manière linéaire mon cheminement. Je ne sais pas si nous sommes arrivés encore à ce niveau-là de foi, fidélité, mais Dieu y travaille. Il y a un très bel exemple de foi, fidélité dans la Bible. Il s'agit des parents de Jean-Baptiste. Ils s'appelaient Zacharie et Élisabeth. Et si vous avez la curiosité de lire attentivement le début de l'évangile de Luc, vous allez découvrir que ce couple était un couple très pieux, engagé. Lui était sacrificateur du Seigneur. Il servait Dieu, nous est-il dit, d'une manière irréprochable. Et ils avaient demandé dans leur prière d'avoir une progéniture, d'avoir des enfants. Ils n'ont rien vu. Enfin, pendant très longtemps, ils n'ont rien vu. Mais même si leur prière n'était pas exaucée, même s'il n'y avait aucun signe du ciel qui disait « Non, non, persévérez, vous allez voir, ça va s'arranger, Dieu a trouvé une solution. » Non, non, c'est le silence total de la part du ciel. Et toute leur vie, ils ont servi Dieu, dit Luc, d'une manière irréprochable. C'est ça la foi fidélité. Cette foi qui s'appuie sur la révélation de Dieu, ce qu'il a dit, enseigné, etc., ses promesses, et qui continue à vivre en lui faisant confiance. Et un jour, très tard, j'ai dit, sur la fin de leur vie, un ange du Seigneur avertit Zacharie et lui dit, vous allez avoir un enfant. J'ose pas dire que c'est de l'humour, parce que certainement pas, mais quand même, je dis, ta prière a été entendue. Ben oui, mais il y a des années qui se sont passées. Ta prière a été entendue, dit le Seigneur. Mais quand même, beaucoup d'années se sont écoulées. Et pendant ces nombreuses années, Zacharie et Élisabeth ont marché dans les voies de Dieu fidèlement. Ils ont servi Dieu fidèlement. Et ils ont certainement, et ça a été certainement un couple exceptionnel pour donner à Jean-Baptiste les bonnes valeurs chrétiennes, les valeurs de la foi, d'une foi fidèle, une foi tranquille, une foi qui compte sur le Seigneur. Quand l'apôtre Pierre parle de notre salut, il dit au début de son épître, chapitre 1, « C'est là ce qui fait votre joie, le salut, et c'est vrai. Nous sommes heureux d'être sauvés. » Amen. C'est un destin merveilleux que de passer, d'envisager de passer l'éternité dans la gloire de Dieu. Et Pierre dit « Cela, c'est ce qui fait votre joie. » Et il ajoute « Quoique. » Et ce « quoique » nous gêne quand même. Et il est dans les versions, dans toutes les versions, dans les manuscrits, « quoique ». Et puis il ajoute, comme s'il appuyait un peu plus, « puisqu'il le faut, puisqu'il le faut, soyez attristés par diverses épreuves. » Et il ajoute, « parce que votre foi doit faire ses preuves. » Il ne faut pas malmener la foi pour la malmener, non ? La foi doit faire ses preuves dans le domaine de la confiance, dans le domaine de l'obéissance, dans le domaine de la conquête des promesses de Dieu, dans le domaine de la fidélité. Donc il arrive parfois que notre foi soit un peu sur le grill, sous un aspect ou sous un autre, mais Dieu ne nous emmène jamais au désert pour notre péril. Jamais. Ceux qui sont morts dans le désert à l'époque de Moïse sont morts à cause de leur faute et de leur incrédulité, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ils sont arrivés trop tard, ils n'ont pas cru dans les promesses de Dieu, ils n'ont pas fait confiance au dessein de Dieu et ils n'ont pas pu entrer dans le pays promis. Mais Dieu ne nous emmène jamais, jamais dans une situation difficile pour nous y faire périr, pour nous y anéantir, pour nous détruire, c'est pour travailler à la vigueur de notre foi, c'est pour travailler à la solidité de notre foi, c'est pour travailler à l'enracinement de notre foi, c'est pour travailler à ce que, au dernier jour, notre foi conduise à la louange et à l'éloge et que le Seigneur soit glorifié au-dessus de tous. La foi, c'est une ferme assurance qui est là dans le cœur. C'est par ce principe-là de la foi que Dieu a décidé de nous bénir, d'avoir une relation avec nous, de cheminer avec nous et de nous destiner à la gloire éternelle. Cette foi, il la veut de qualité. Non pas une foi émotionnelle, une foi qui constituerait en belle formule, une foi qui serait juste passagère, un coup de vent, un feu de paille. Ce que Dieu veut, c'est que la foi soit profondément enracinée dans notre cœur. C'est que cette foi ne s'appuie pas sur ce qui se voit, ce qui s'entend, ce qui se touche, mais s'appuie sur l'invisible. Et quand on est doté de cette foi-là, on est capable d'exploits, on est capable de faire des choses étonnantes, on est capable de vivre avec Dieu des choses que l'incrédulité ne peut pas faire vivre. Alors, nous allons rejoindre les disciples quand ils disaient « Seigneur, augmente notre foi, à moins que la vôtre soit parvenue à un niveau de perfection tel qu'il ne soit plus nécessaire de demander quoi que ce soit au Seigneur. » Il me semble qu'en toute modestie et humilité, nous sommes du côté des disciples, disant « Seigneur, j'ai besoin de faire un effort dans la confiance. Je suis vite démonté, je suis très vite démoralisé. Apprends-moi à te faire confiance. Seigneur, je te fais confiance, je crois dans ta parole. Mais il y a des domaines où parfois j'ai un peu de mal à obéir encore. Je serais même tenté de discuter l'obéissance et de trouver, voir quelques conditions d'arrangement. Parfois, Dieu nous demande d'obéir sans explication. Seigneur, viens m'aider. Il y a devant moi de belles perspectives. Il y a de belles promesses. Et j'ai l'impression que certaines de ces promesses sont encore lointaines pour moi. Elles devraient s'accomplir dans ma vie et ne se sont toujours pas accomplies. Alors, Seigneur, aide-moi à entrer dans cette dimension-là. Et c'est encore un autre sujet de prière. Seigneur, donne-moi cette foi qui ne regarde pas Facebook, qui ne regarde pas l'actualité, qui ne regarde pas tout ce qui se passe autour, la télévision, BFM TV et le reste, cette foi qui est fondée sur ta parole, fondée sur tes promesses, fondée sur ta révélation et qui avance quelle que soit la météo. C'est précieux d'avoir dans les assemblées des frères et des sœurs qui ont cette linéarité-là. On a toujours des frères et des sœurs, ça va, ça vient. Le dimanche soir, ils sont très hauts. Le lundi matin, ils ont déjà descendu deux marches. Et quand on arrive au milieu de la semaine, c'est déjà très bas. Puis après, comme le dimanche arrive, ils reprennent espoir, ça remonte. Non. Que Dieu fasse que notre foi soit constante d'un dimanche à l'autre, du 1er janvier au 31 décembre. Certes, elle peut connaître quelques petites variations parce qu'il y a des moments où ce n'est pas très simple. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à marcher dans le brouillard en lui faisant confiance, sachant que sa main n'est pas loin et que sa présence ne nous abandonne jamais. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions.